Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène en Bolivie, premier pays au monde doté d'une loi contre le harcèlement des femmes politiques. Est-ce que ça rend leur travail plus facile ? Je vous laisse découvrir et je sens que vous avez la réponse. Et justement, tiens, on est très féministe ce soir et très bien assumé aussi. Nous discutons dans un instant avec Kauter Benania, réalisatrice du très beau La Belle et la Meute. Et si la prochaine révolution tunisienne était féministe? Allez, on lui posera la question. Ce soir aussi, 18h40, le Brexit saison 2, le feuilleton du lundi ou comment la Grande-Bretagne cherche à tâtons la sortie de l'Europe. Les médias dans le monde avec Alexandra Akoun, une nouvelle campagne de pub, vous allez l'entendre, de CNN, 18h55. L'édito d'Anthony Bélanger en Catalogne, mais celle d'autrefois. Allez, le monde est vaste et on a tout le temps.
Fabienne Saint-Es, un jour dans le monde.
كنا في سهرية عملتها الجامعة في وتيل
لازم أتقابل طبيب
إيش عنده هيك؟
Le film est sorti la semaine dernière, il s'appelle La Belle et la Meute et c'est fou comme on le regarde avec un œil particulier en fait. Depuis peut-être que ces affaires de harcèlement, de violences faites aux femmes est un sujet brûlant d'actualité, y compris chez nous, et combien on réalise aussi que ces problématiques traversent les sociétés, les pays, interrogent nos sociétés, nos pays, chacun évidemment à leur manière. Bonsoir Kauter Benania.
Bonsoir.
Vous avez donc réalisé La Belle et la Bête qui est en salle, un film tunisien qui est aussi un condensé en 1h30 et 9 plans séquences de ce qu'est la Tunisie d'aujourd'hui. Rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été violée par des policiers, elle a une petite vingtaine d'années seulement, et qui se tape la tête contre les institutions pendant toute la durée de cette nuit. C'est l'hôpital, ce sont les policiers pour pouvoir porter plainte. Elle a de la ressource, hein, elle se heurte à des refus l'un après l'autre, mais elle persiste, elle finira d'ailleurs par gagner, puisque ce que le film ne montre pas, puisqu'il ne montre que la première nuit, c'est que dans l'histoire vraie, puisque cette histoire est vraie, vous avez adapté cette histoire pour votre film, dans l'histoire vraie, donc la jeune femme va non seulement au bout du processus, mais les policiers qui l'ont violée finiront par être condamnés et par être largement condamnée à 15 ans de prison. Le film, je le disais, c'est une nuit. Donc la nuit du viol, ça commence par un épisode tragique et ça finit par une rébellion. Et au fond, on ne peut pas s'empêcher d'y voir une vraie histoire de votre pays et de cette révolution finalement. Parce que ça commence pareil. Ça commence par une tragédie à Sidi Bouzid et ça finit par une rébellion. C'est pareil, c'est la même histoire au fond, non, quelque part.
Bah, je suis contente que vous aviez vu ça, quoique je pense que c'est inconscient parce que ce qui s'est passé en Tunisie c'était tellement fort, c'était une tournade incroyable qui a bouleversé tout et du coup c'est pour moi c'était très important de pourquoi je voulais raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui porte beaucoup d'espoir, qui nous on garde la tête haute et on y va et même si le c'est-à-dire on peut comme ça se dire c'est une histoire de viol. Mais c'est au-delà de ça, c'est une quête de justice. Et je pense que c'est un.
Et d'ailleurs, vous montrez pas le viol parce que dans l'histoire, finalement, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est elle et c'est comment elle se bat pour aller jusqu'au
Exactement.
bout.
Et donc voilà, c'est un film qui nous mène vers. Dans ce combat, durant cette nuit, et on est avec elle, et on a envie qu'elle y arrive, et on a et pour moi, ce combat, il est très important parce que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'extrêmement universel, la quête de justice.
Et alors, il y a cette phrase que dit l'un de vos personnages, c'est Youssef notamment, c'est le jeune homme dont il faut souligner d'ailleurs qu'il reste tout le temps à côté de la jeune femme, et il dit, ça sert à quoi la révolution? Des hommes sont morts pour leurs droits, pour que ces sauvages paient, si on accepte l'humiliation, eh ben ce sera tant pis pour nous, et c'est pour ça qu'il faut y aller, c'est pour ça qu'elle le pousse à y aller. Qu'il la pousse à y aller, ça y est, dans l'ordre.
Oui, absolument. Mais lui, voilà, eux, ils représentent deux figures très, très différentes. Parce que elle, finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout politisé et qui n'a pas une très grande conscience politique. Lui, contrairement à elle, et voilà, il lui sort de grandes phrases sur la révolution alors qu'elle est dans un état très tragique. Elle peut même pas. C'est-à-dire, on comprend théoriquement sa vision. Bien sûr, lui, pour lui, les institutions, elles doivent. Les institutions, c'est quelque chose qui sert les citoyens et donc elle par contre c'est beaucoup plus un cheminement Elle change, elle mute durant cette soirée.
Mais est-ce que justement, d'une certaine façon, parce qu'elle le sait pas avant, elle est le produit de la révolution finalement, cette petite gamine de 20 ans. Sans cette révolution, peut-être qu'elle l'aurait pas fait ce chemin-là, vous
non,
croyez ?
Non, exactement. Exactement, parce que il y a... C'est-à-dire, elle comprend d'une manière très claire que elle devient citoyenne. C'est quoi être une citoyenne ? C'est quoi revendiquer ses droits ?
Et d'autres lui soufflent, et c'est ça qui est intéressant aussi, en fonction des endroits. Elle tombe sur des policiers qui sont particulièrement désagréables, mais au milieu de ces gens désagréables, il y en a un quand même qui lui dit « tu as des droits, vas-y ». Donc on sent bien aussi l'ambivalence de ce pays finalement, entre l'ancien système et le vieux système, et ces deux qui poussent sans qu'on sache encore où est le résultat final.
Oui, absolument. C'est-à-dire, c'est un film aussi sur la transition, sur un grand changement. C'est-à-dire, on sent que ces policiers qui ne veulent pas qu'elle porte plainte, ils veulent pas, entre autres, parce qu'ils ont peur d'elle. Mmh. On sent que la peur, elle a changé de place.
Une histoire pareille peut mettre le pays en péril, lui dit l'un des policiers.
Oui,
pour lui
c'est
faire
un chantage
peur.
Classique. Exactement. On connaît tous la sécurité entre le fait de fermer les yeux sur ses droits. C'est quelque chose qu'on connaît tous. Et donc voilà, c'est un film aussi sur ce chantage-là.
En même temps, quand on regarde la Tunisie aujourd'hui, on se rend bien compte jusqu'à quel point il se passe des choses, y compris par rapport aux voisins. En fait, et c'est peut-être ça aussi qui ressort de ce film-là, il se passe des choses sur le droit au partage à l'héritage. On a peut-être mis les choses de côté, nous en France, on ne s'est pas rendu compte jusqu'à quel point c'était une avancée fondamentale que de séparer l'héritage en deux, 50% pour les hommes, 50% pour les femmes, alors qu'autrefois le partage il n'était évidemment pas à 50-50. Les femmes ont le droit d'épouser des non-musulmans. Il y a quelque chose qui pousse aujourd'hui encore dans la société civile, qui est extrêmement important et qui n'existe pas chez vos voisins, en fait, non ?
Oui, en Tunisie, parce que la Tunisie, c'est un grand chantier qui est un chantier passionnant, puisqu'on a réécrit la Constitution. La Révolution, elle a servi à ça. C'est quelque chose de très fort. Quand on a une nouvelle Constitution, voilà, il faut réviser tous les lois. Donc, c'est un énorme chantier juridique qui fait que, avec un grand bras de fer de la société civile, des partis politiques au sein du Parlement, c'est une jeune démocratie. Donc, tout est remis en question et c'est une construction. Oui.
Et c'est pour ça d'ailleurs que, d'abord que l'histoire de votre film, lorsque le fait divers s'est produit, pardon d'appeler ça comme ça, ça a été un grand bouleversement en Tunisie, probablement aussi pour ça que la condamnation a été aussi importante. Comment il est reçu votre film ? Comment on le regarde ? Comment on le voit là-bas ?
Bah, le film sortira le 12 novembre
Vous avez fait
Tunisie.
Des avant-premières peut-être, non ?
La première, on l'a réservée pour le Festival de Carthage, okay. Qui est juste avant. Mais je sais qu'il est très attendu depuis son passage à Cannes. Le film était à la section Un Certain Regard. Et le bruit que... Enfin, la presse, il est en tête des critiques de la presse sur Halluciné. Donc les Tunisiens suivent de l'autre côté de la Méditerranée. Ils savent que voilà, c'est un film qu'ils attendent.
Parce que je vous pose la question parce que dans la lignée de ce dont on parlait avant sur la jeunesse de cette Tunisie aujourd'hui, Monia Benjemia, qui est la présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, a eu cette phrase. Elle a dit « La Tunisie est un modèle endogène de progrès et cela interpelle nos voisins maghrébins. C'est très positif. Est-ce que vous avez l'impression que la Tunisie est un modèle endogène de progrès, réellement ? Que le progrès vient de là, de l'intérieur, et qu'il peut essaimer sur le reste ? Un peu comme la Révolution a essaimé sur les autres pays, finalement. »
Moi, je crois beaucoup à cette idée que le changement ne vient que de l'intérieur. C'est-à-dire quand on a... Et c'est un peu... Je reviens au film.
Oui, oui.
C'est un peu comme ma protagoniste je le disais, elle n'est pas du tout politisée. Elle a un côté un peu naïf, comme ça. Ici, à un certain moment, elle ne se rend pas compte de la force qu'elle a en elle. Et elle s'appuie là-dessus. Elle n'aurait jamais pu leur tenir tête. C'est-à-dire c'est un peu un combat de David contre Goliath. Donc c'est cette force intérieure qui m'intéresse énormément.
Je vous pose la question parce que dans votre Maroc voisin, il y a eu le fameux film Much Loved, notamment de Nabil Ayouch, qui lui dénonçait l'hypocrisie des sociétés arabes dès lors qu'on parle de sexe. Là, dans le vôtre, on est dans un autre registre. Évidemment, on parle de viol, mais la difficulté aussi reste la même. Ça a donné beaucoup d'ennuis pour son réalisateur comme pour son actrice principale. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on regarde les choses très différemment chez vous en Tunisie.
Malheureusement, j'ai pas vu Much Loved, j'ai pas suivi ce qui s'est passé au Maroc, mais je pense que encore une fois, c'est-à-dire dans mon film, par exemple, je pense qu'une question comme la justice ou comme l'injustice, comment combattre l'injustice, c'est une question qui fédère tellement autour d'elle et qui passionne tout le monde et qui fait que le film, il était vendu dans plusieurs territoires. Donc, c'est-à-dire avec ce film, je me rends compte à quel point la localité de l'histoire, qui est très locale, tunisienne, elle parle à tout le monde, à l'échelle internationale et surtout avec l'actualité qu'on connaît. Tous.
L'actualité et le fait que c'est une femme qui porte ce film, en fait, pas vous, votre héroïne, en fait.
Oui.
Y a quelque chose là-dedans qui dit que la prochaine révolution arabe, c'est celle des femmes, en fait, d'une certaine façon, non, vous croyez pas ?
Moi, je pense que la prochaine révolution, elle doit se faire avec les hommes et les femmes ensemble. Ils doivent, voilà, ça doit être quelque chose au-delà des genres et au-delà des femmes contre les hommes. Et je pense que les deux ensemble peuvent aller très loin, plus loin.
Vous voyez les débats qui secouent France en ce moment, l'affaire Weinstein, etc. Tout ça ne vous a évidemment pas échappé. Au fond, l'éternelle histoire d'une domination masculine, d'un pouvoir. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, avec votre œil ? Est-ce que la conclusion que vous en tirez, c'est que finalement, vous voyez, il y a des points communs finalement avec toutes les histoires ? Ou est-ce qu'on est très loin de tout ça après une histoire comme celle que vous racontez, vous, dans votre film ?
Moi, je pense que c'est les mêmes mécanismes partout, parce que dans mon film, par exemple, c'est une petite fille, enfin, c'est une jeune femme contre le pouvoir. Et donc, elle est agressée par ce pouvoir, elle va se plaindre à ce pouvoir. Et à Hollywood, qui a un vrai pouvoir, là, on est dans quelque chose d'extrêmement, voilà, énorme, on a ce producteur qui a du pouvoir et qui utilise les mêmes mécanismes d'intimidation. Donc, que ça soit le petit flic de quartier à Tunis ou le grand producteur de Hollywood, on est face à, je reviens à quelque chose qui est au-delà de, c'est une question d'injustice et d'oppression, même symbolique. Et donc, c'est les mêmes thématiques et les mêmes schémas, finalement.
Et ce sont les mêmes schémas, et là, ce sont donc les femmes qui répondent aussi bien à Hollywood que chez nous et dans d'autres pays. Et là aussi, encore une fois, c'est votre héroïne qui se bat. À la fin, elle est toute seule, mais elle se bat. Je reviens à ma question précédente. Est-ce que c'est par les femmes que les chauves peuvent changer selon vous? On a même l'impression que ça faisait partie des revendications au moment de la révolution, d'ailleurs en 2011. Est-ce que les changements peuvent passer par les femmes? En gros, est-ce que la révolution a touché aux codes sociaux?
Oui, absolument. Une révolution, c'est ce qu'on dit en arabe, Assad, c'est une tournade. Donc voilà, ça bouleverse tout, ça change tout. Et bien sûr, on se retrouve comme ça du jour au lendemain en train de discuter de tout. C'est un débat ouvert et qui fait que, alors qu'on n'a jamais parlé sous une dictature, on ne parle pas, on ne débat pas. Et donc du coup, ça touche tout le monde et on remet en question tout. Et donc ça peut partir dans tous les sens, mais comme ça peut être extrêmement bénéfique. Donc il y a ce foisonnement que moi je trouve extrêmement intéressant et passionnant et qui m'intéresse et qui me permet, moi, par exemple, je reviens à ce film. Mm-hmm. Ce film, j'aurais jamais pu le faire il y a 7-8 ans avant la révolution. Ça aurait été hors de question de le faire.
Parce C'était interdit de le faire. Vous n'auriez pas trouvé de financement pour le faire. On vous aurait mis des bâtons dans les roues. Ça se serait matérialisé comment ?
Tout. C'est-à-dire, ce film, je l'ai fait. Non, pas seulement je l'ai fait, mais en plus, il est soutenu par le ministère de la Culture tunisien. C'est un film qui est extrêmement contre l'institution policière et sa corruption. Voilà, qui montre tout ça de l'intérieur et qui n'aurait jamais pu. Et donc, pour moi, c'est un résultat très concret de ce qui s'est passé en Tunisie.
Ça veut dire qu'y compris le pouvoir attend de vous, du film en tout cas, qu'il fasse œuvre de pédagogie dans le reste du pays, vous le pensez ?
Pédagogie, je ne sais pas, parce que voilà, c'est une commission de cinéma, donc je pense qu'ils ont aimé le scénario, les gens qui ont financé ce film, mais je pense que si mon film permet un débat, qui existe déjà, on en parle de ces questions-là, de la corruption, de la police, comment réformer les choses, c'est un débat qui existe en Tunisie, mais s'il permet d'y participer, pourquoi pas.
Corruption, police et sexualité aussi, est-ce que c'est un sujet qu'on aborde en Tunisie ? On se souvient beaucoup de gens s'en sont emparés. Regardez Leïla Slimani, voisine marocaine, qui l'a fait sur l'espèce d'hypocrisie en même temps que le tabou. Est-ce que ça existe aussi, ce débat-là, en Tunisie ? Est-ce qu'il est plus facile en Tunisie qu'il peut l'être chez vos voisins du Maroc ou pas ?
Oui, absolument. Mais c'est un débat qui existe depuis la dictature. C'est-à-dire, si on regarde bien les films tunisiens, il y a toujours des scènes de sexe. Il y a le Halfaoui, l'enfant des terrasses, qui est un film tourné dans les hammams. Donc la sexualité, c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas vraiment un tabou comme on pourrait le croire. noir.
C'est pas un tabou, c'était... mais est-ce que c'est une hypocrisie, en fait? Est-ce qu'on fait comme si on voyait pas? Un peu comme c'est ce que disent les Marocains aujourd'hui. On fait comme si ça n'existait pas, alors qu'on sait très bien ce qui se passe derrière.
Bah, on sait tous que ça existe. C'est-à-dire, je me dis que, c'est-à-dire, la vraie question, c'est, en tout cas, sous la dictature, c'était pas l'hypocrisie de ne pas parler de la sexualité, c'était l'oppression. Et l'oppression, elle touchait hommes et femmes. Et donc, ça créait une misère sexuelle, parce que la dictature, elle mise sur ça. C'est le fait de, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est George Orwell, le fait de canaliser la libido des gens pour les utiliser dans un système
et Kamel
totalitaire.
Aussi,
donc
tout est politique. À sa manière, de l'autre côté en Algérie. Et vous avez le sentiment que un film comme le vôtre peut là aussi mettre cette conversation sur le tapis, pourquoi pas ou pas? Est-ce que ça engendre ce genre de conversation, un film comme le vôtre? La Belle et la Meute. Une conversation sur la sexualité, une conversation sur les mœurs, sur... Regardez, votre personnage, par exemple, au début, est arrêté pour atteinte aux bonnes mœurs, alors qu'ils sont juste en train de se promener sur la plage.
Oui.
Donc, est-ce que ça fait monter le débat, là aussi, ou pas?
Bah, je l'espère. Je le souhaite, en tout cas.
Et on verra quand vous le présenterez. En tout cas, vous êtes en train de le montrer en ce moment chez nous. Il est sorti en salle la semaine dernière.
Il est encore à l'affiche.
Bien sûr.
Donc,
Il est totalement, même, puisque à peine une petite semaine, et puisque c'est les vacances, il est grand temps d'en profiter, en tout cas pour certains. La Belle et la Meute, signée Kauter Benania, merci beaucoup de votre présence dans Un jour dans le monde.
Merci à vous.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde. On ne va pas quitter notre sujet sur les femmes avec un reportage dans le seul pays qui est doté d'une loi contre le harcèlement des femmes en politique. C'est la Bolivie, ce pays. Vous allez voir, ça n'en fait pas forcément un exemple. À suivre aussi Brexit saison 2, le feuilleton de la sortie de l'Europe des Britanniques. On rejoindra Quentin Dickinson, Alexandra Akoun et les médias dans le monde.
Eh bien, une pomme n'est pas une banane.
Non, absolument. On le verra, on le sait d'ailleurs grâce à CNN et on voit ça dans un instant. Besides, I barely ever see you anymore. And when I do, it feels like you're only halfway there. Young mothers love me, even ghosts of girlfriends call from Cleveland. They will meet me anytime and anywhere. The day I die, the day I die. National de Day I Die sur France Inter.
Magic FM.
Terra de la Tula.
Desservi Prispo.
60 Minutes.
Sous les radars, l'information internationale que Florence Paracuelos va chercher dans les pages intérieures. Ce soir, Florence, une nouvelle ville débarrassée de Daesh.
Une ville en ruine, des immeubles comme des squelettes après des semaines de bombardements et des femmes en noir, des pieds à la tête qui témoignent dans les reportages tournés sur place. On pourrait être en Syrie, à Raqqa, on est aux Philippines, à Marawi, la plus grande ville musulmane de l'archipel à majorité catholique. Là-bas, des djihadistes affiliés au groupe État islamique contrôlaient des quartiers entiers depuis le mois de mai, issu de la fusion entre le groupe Abu Sayyaf, vous vous souvenez peut-être des otages de Jolo au début des années 2000, c'était Abu Sayyaf qui est donc fusionné, si je puis dire, avec une rébellion séparatiste musulmane, le tout donnant une filiale de Daesh, avec un émir, Isnilon Apilon, qui avait pour projet de décréter un califat. Il n'en a pas eu le temps, tué la semaine dernière par l'armée philippine. Le lendemain, le président Rodrigo Duterte se rendait sur place quelques jours avant la victoire annoncée aujourd'hui par le gouvernement. Mais dans la bouche du président philippin, aucun triomphalisme, tant la menace est encore présente dans le sud de l'archipel.
Ça va continuer encore et encore. Je suis triste d'avoir à combattre et à tuer des Philippins de tous les côtés, car j'ai perdu tellement de soldats. Ce n'est une victoire pour personne. Le moment venu, quand il sera temps pour nos troupes de repartir, nous emballerons nos affaires et nous rentrerons en silence. Je ne veux pas célébrer cela. Il ne s'agit pas d'une victoire pour les Philippines.
Ça n'est pas une victoire, répète Rodrigo Duterte sur France 24. La bataille a fait 1 millier de morts, 400 000 personnes ont fui la ville de Marawi et la loi martiale imposée sur presque tout le sud de l'archipel reste en vigueur. D'autres foyers djihadistes pourraient à leur tour s'embraser.
Allez, direction l'Algérie maintenant pour une déclaration très peu diplomatique du chef de la diplomatie.
Eh ben oui, c'était vendredi devant l'université du MEDEF local à la tribune Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, balance sur le Maroc.
Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, m'échappe. Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait.
Ben voilà. Les banques et la compagnie nationale marocaine, accusation stupéfiante, si l'on peut dire, de la part d'un chef de la diplomatie en exercice à l'encontre de son voisin, utilisé manifestement pour décrédibiliser la montée en puissance des investissements marocains en Afrique ces dernières années. Cette prospérité, on sait d'où elle vient, a dit en gros le ministre, dans l'espoir d'attirer le business en Algérie.
Non, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie.
Voilà, je vous laisse imaginer le retentissement de ces déclarations au Maroc, gravissime selon la chancellerie marocaine qui rappelle son ambassadeur à Alger et qui contre-attaque sur le thème des mensonges qui cachent les problèmes économiques, politiques et sociaux de l'Algérie. Pendant ce temps-là, Twitter se lâche avec le hashtag tweet comme Messahel du nom du ministre. Pour les messages les plus drôles, ça donne Pablo Escobar était un client fidèle de la Royal Air Maroc et ça tout le monde le sait. Le TGV marocain marche au hashish et ça tout le monde le sait. Ou encore, c'est pas Bouteflika qui dirige l'Algérie vu qu'il est mort depuis longtemps. Et ça, tout le monde le sait. Voilà donc pour ce nouvel exemple de la rivalité historique entre le Maroc et l'Algérie et de l'humour des Algériens et des Marocains.
Allez, quand un président rencontre d'autres présidents, Florence, qu'est-ce qu'il se raconte ?
Eh bien, des histoires de présidents, Fabienne.
Ainsi,
5 anciens présidents américains sont venus assister samedi à un concert pour les victimes des ouragans au Texas. Là, c'est Bill Clinton qui parle. Et pendant qu'il prononce les mots « calamité », il a beaucoup vieilli. La voix a énormément vieilli, effectivement. Et pendant qu'il prononce les mots « calamité » et « désastre » sur la scène, derrière lui, on voit George Bush dire quelque chose à Barack Obama qui éclate de rire. Parlait-il de leur successeur à la Maison-Blanche qui ne porte pas Trump dans leur cœur ? En tout cas, ces trois-là, Clinton, Bush et Obama, ont l'air de s'entendre à merveille. Ils l'ont allègrement montré lors d'un tournoi de golf fin septembre, tout sourire sur les photos et les selfies. On aimerait être une petite souris pour savoir ce qu'ils peuvent bien se raconter.
Bah vous savez, la vie, la mort, la coiffure.
Dit-elle, vous qui avez fréquenté
surtout,
tant d'anciens présidents américains.
Surtout la coiffure, je crois. Florence Paracoulos, à demain.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes en Bolivie. En Bolivie, où voici qui résonne si bien avec notre actualité, il existe une loi historique, c'est même la première au monde, contre le harcèlement des dirigeantes politiques. Bonsoir Alice Campagnol.
Bonsoir.
Alice, d'abord la Bolivie, il faut le rappeler parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est le second pays au monde avec la plus grande représentation féminine à l'Assemblée, seconde derrière le Rwanda, 53% des femmes au Parlement. C'est un gros chiffre et la conséquence, eh bien, c'est pour ça qu'une loi, celle dont on parlait à l'instant, existe. La conséquence, c'est le harcèlement dont elles sont victimes. Rien n'est simple pour les élues boliviennes.
Non, effectivement, hein, si la Bolivie est dotée d'un arsenal juridique assez inédit hein, en matière de représentation féminine, ce qui lui permet donc ces 53% de femmes au Parlement, elle reste eh bien, malgré tout l'un des pays du continent avec le taux de violences faites aux femmes le plus élevé, l'un des plus élevés. Et ces violences, eh bien, on les retrouve en politique, hein, elles ne sont pas seulement réservées au cercle familial. Il existe donc une loi, encore une, hein, contre ces comportements, une loi donc qui condamne le harcèlement et les violences politiques faites aux femmes.
Voilà, le seul pays donc à avoir cette loi. Alice, on écoute votre reportage et ce paradoxe aussi donc d'un pays doté d'une loi contre les violences de genre en politique et qui reste le plus touché par les discriminations.
Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient me tuer, me séquestrer.
Ils ne me laissent pas parler. Nous les femmes, on nous méprise. Retourne dans ta cuisine, ils nous disent.
Ce spot de prévention diffusé à la télévision bolivienne regroupe des témoignages de femmes politiques ayant été harcelées dans le cadre de leurs fonctions. Menaces, insultes ou violences physiques, on dénombre environ 500 plaintes de harcèlement politique en Bolivie depuis 2012. 2012, c'est l'année lors de laquelle est votée la loi numéro 243, la loi contre le harcèlement et la violence politique envers les femmes. Les coupables encourent jusqu'à 10 ans de prison. Katia Uriona est présidente du tribunal électoral. Elle s'est beaucoup impliquée dans les lois pionnières sur la question de la représentation des femmes.
La Bolivie est le premier pays à se doter d'une loi contre le harcèlement et la violence politique. Au moins 6 femmes sur 10 souffrent de violence et de harcèlement en politique. C'est énorme, mais que se passerait-il si nous n'avions pas cette loi? Nous nous retrouverions dans une situation de non-protection totale.
Le vote de cette loi de 243 traînait depuis déjà plusieurs années quand le 13 mars 2012, la conseillère municipale Juana Quispe est retrouvée morte près d'un ruisseau. Des signes de strangulation ont conclu à son assassinat, pourtant rien ne lui avait été volé. Le coupable n'a jamais été retrouvé. Depuis 2 ans, elle était victime de harcèlement et de violence par des membres de son conseil municipal qui l'avaient plusieurs fois menacée de mort. Dans son cabinet, dans le centre historique de la ville de La Paz, Valkyria Lira, l'avocate du cas Quispe, ne mâche pas ses mots.
Selon moi, cet assassinat, c'est de la haine envers la femme et envers sa politique. Juana Quispe était une femme forte et une femme influente, et pas parce qu'elle avait de l'argent. C'était une leader qui parvenait à changer les choses. Elle avait décidé de ne pas seulement être maman ou agricultrice ou tisseuse, elle voulait aller plus loin.
Si la lumière n'a jamais été faite sur cette affaire, les indices accablent les anciens opposants politiques de Juana Quispe. Mais l'avocate craint que l'affaire ne soit jamais résolue. L'association des conseillères boliviennes ACOBOL a dénombré en 2016 65 plaintes devant la justice. Une infime minorité face au nombre réel de cas. Sandra Silva et Bernarda Saroué, respectivement avocate et directrice de l'association.
65 femmes.
Pardon, ce sont celles qui osent porter plainte. Parce que selon nos informations, il y a beaucoup plus de cas que ça. Mais ces femmes ont peur de porter plainte.
Quand nous organisons des réunions et que l'on demande si certaines subissent des violences ou du harcèlement politique, elles lèvent toute la main sans aucune exception.
Derrière ces deux mots, harcèlement et violence, se cachent toutes sortes de comportements. À Juana Quispe, on a jeté du sable dans les yeux. À une autre, on a coupé les tresses. Certaines ont été empêchées physiquement d'accéder à leur bureau et beaucoup ont été forcées à démissionner. Énumérer tous les cas de harcèlement et de violence politique prendrait des heures, mais les journaux télévisés s'en font écho plusieurs fois par mois.
Nous venons d'apprendre qu'à Chuquisaca, un cas de harcèlement politique vient d'être dévoilé. La victime est Eva Martinez, conseillère de la commune de San Lucas.
Mais bien qu'il existe désormais une loi sanctionnant la violence politique, les cas continuent de pleuvoir et ils sont même, avec les années, de plus en plus nombreux. Pour Katia Uriona, le phénomène est presque logique.
Plus il y a de femmes en politique, plus on voit apparaître la reproduction d'un phénomène de violence qui était jusqu'ici dans le cercle privé et qui peu à peu apparaît au au grand jour. Avant, il n'y avait pas de violence et de harcèlement politique, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de femmes en politique.
Gabriela Montagno est députée, présidente de l'Assemblée, véritable figure du parti au pouvoir. Elle-même s'est déjà sentie harcelée, mais malgré tout, elle reconnaît que les députés sont en quelque sorte plus protégés que les femmes politiques des régions rurales. Elle explique.
Oui, je connais des députés qui ont vécu à certains moments des pratiques très violentes. Je le répète, ça arrive beaucoup moins souvent qu'au niveau municipal ou départemental. Et je ne crois pas que ce soit parce qu'ici le patriarcat a disparu, mais parce que nous, les parlementaires, nous pouvons porter plainte beaucoup plus facilement.
Aujourd'hui, les chiffres font peine à voir. Aucune plainte déposée depuis 2012 ne s'est terminée par une condamnation, notamment à cause du problème de la preuve. Pour contrer cette difficulté, depuis un an, il est obligatoire de filmer les réunions d'assemblée, mais malgré tout, toujours aucun condamné. Cependant, la loi 243 a tout de même permis une chose, créer une véritable solidarité féminine. Ximena Costa est une députée de l'opposition et elle a subi des persécutions de la part de ses collègues masculins, mais voit le côté positif.
L'augmentation du harcèlement du fait de l'entrée des femmes en politique crée quelque chose de positif malgré tout. On ne se laisse pas faire. Et même la présidente de la Chambre qui est d'un autre parti, et Dieu sait que l'on se dispute beaucoup en matière de politique et d'idéologie, eh bien en matière de genre, elle me soutient toujours.
Aujourd'hui, qu'elles soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, les femmes politiques boliviennes continuent de se battre pour faire connaître et respecter cette loi numéro 243 et pour qu'enfin, elle soit véritablement appliquée.
Alice Campagnol en Bolivie pour Un jour dans le monde sur France Inter. Voici Gotham Project, Santa Maria. Santa Maria par Gotham Project sur France Inter.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Synthèse.
This is an historic moment.
Un jour de liste.
L'actualité en série. Le lundi, c'est le feuilleton de la Grande-Bretagne qui cherche la sortie de l'Europe, mais a beaucoup de mal visiblement en ce moment. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Quentin, Brexit dominé par le sommet européen de jeudi et de vendredi dernier, hein, aujourd'hui.
Oui, on attendait beaucoup de cette réunion des chefs d'État et de gouvernement, puisque c'était à ce moment-là qu'on devait décider d'ouvrir, parallèlement donc à la négociation sur le divorce euro-britannique, une autre négociation, celle sur les futures relations définitives post-Brexit entre Londres et l'Union européenne à 27. Mais il y avait une clause fatale. Il fallait qu'au cours des mois précédents, on ait engrangé des progrès suffisants dans la négociation de divorce pour s'autoriser à parler de l'avenir. Et Fabienne, de progrès, même à la loupe et avec beaucoup de bonne volonté, eh bien, il n'y en eut point. Cela se comprend en fait, puisque Theresa May ne pouvait se permettre de donner l'impression à ses députés brexiteurs les plus acharnés qu'elle avait lâché la moindre concession avant le congrès de son parti conservateur au début de ce mois. Résultat, 6 mois et 4 séances de négociations en pure perte. En marge du sommet, Madame May, l'autre jour, a dîné avec les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk respectivement. Et tout comme la fois précédente, au 10 Downing Street en avril, cela s'est très mal passé. Madame May, a-t-on raconté, le visage marqué par les insomnies, a pratiquement supplié ses commensaux de lui lâcher un petit quelque chose, un sucre d'orge qu'elle pourrait rapporter à Londres, sans donner l'impression de revenir bredouille. Du coup, on a annoncé que l'on reportait l'échéance de l'évaluation à décembre et que les fonctionnaires de l'UE et des pays de l'UE étaient autorisés à réfléchir à l'avenir, mais sans toutefois mettre le doigt dans une quelconque négociation avec leurs homologues britanniques. C'est tout ce qu'elle a obtenu.
Voilà, donc si on se résume, Quentin, on en est toujours au même point, quoi.
Oui, on avait juré d'accélérer les négociations, plusieurs fois on l'a dit, mais la cinquième séance n'a pas permis de le constater en tout cas. On en est toujours à s'affronter sur la quadrature du cercle, qu'est la situation de l'Irlande du Nord, à faire l'inventaire du casse-tête de la situation des Britanniques dans les pays de l'UE et des ressortissants de ceux-ci au Royaume-Uni, et à se heurter au refus britannique d'engager les pourparlers sur la facture de dédit à payer par Londres pour solde de tout compte.
Donc, la suite maintenant, ça pourrait être quoi ? Encore une réunion pour rien, pardon ?
Non, nous verrons bien. Il y aura des réunions de négociation avec M. Barnier pour l'Union européenne et avec M. Davis pour le Royaume-Uni. Et puis la suite pour les négociateurs, eh bien, c'est un calendrier pour ces deux hommes-là et leurs équipes. Un calendrier qui s'étend jusqu'en octobre de 2018. Si aucun accord n'est conclu à ce moment-là, compte tenu du temps nécessaire à la ratification parlementaire, eh bien, on ne pourra pas tenir les délais impartis par le traité de Lisbonne, vous savez, les fameuses deux années. Mais la suite, c'est aussi la découverte, pratiquement chaque semaine, par l'opinion britannique, de déconvenues majeures qu'on avait occultées pendant la campagne du référendum l'année dernière. Et l'on voit dans la classe politique britannique s'échafauder d'étranges idées, comme par exemple le fait de quitter l'Union européenne, mais de rester quand même dans le marché unique et dans l'union douanière. Enfin, une ineptie évidente de plus.
Merci beaucoup Quentin Dickinson et le feuilleton du Brexit saison 2, toutes les semaines dans Un jour dans le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le rendez-vous d'Alexandra Hakoun avec les médias dans le monde. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On commence par le fake news de la semaine, comme à chaque fois, qui nous emmène en Inde, cette fois où ont débuté il y a quelques jours les festivités du Diwali.
Le Diwali, c'est la fête des Lumières, l'une des fêtes religieuses les plus importantes chez les hindous et les sikhs. Pour souhaiter à tous un happy Diwali, le spationaute italien Paolo Nespoli, actuellement en mission sur la station spatiale internationale ISS, a posté sur Twitter jeudi une photo montrant l'Inde et le Pakistan vue du ciel. On y voit très clairement des millions de petites lumières oranges. C'est magnifique, les internautes ont adoré et largement retweeté 5400 fois. Sauf que ces lumières n'ont rien à voir avec les célébrations de Diwali, comme le laisse entendre le tweet du spationaute. Des internautes vigilants l'ont débusqué. Cette photo, il l'avait déjà postée le 29 septembre dernier.
Elle est toujours dans le même esprit. Accusée par Donald Trump de diffuser de fausses informations, la chaîne américaine CNN contre-attaque.
Avec un spot publicitaire de 30 secondes à l'efficacité redoutable.
This is an apple.
Ceci est une pomme, nous dit une voix off. Certaines personnes pourraient vous faire croire qu'il s'agit d'une banane. Elles pourraient même crier banane, 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 encore et encore. Elles pourraient aussi l'écrire sur toutes les casquettes. Vous pourriez alors commencer à croire qu'il s'agit vraiment d'une banane. Mais ce n'est pas le cas. Ceci est une pomme. Et en conclusion, on peut lire « Fact first », le fait d'abord, c'est sobre, c'est parfait, et c'est à retrouver sur le compte Twitter de CNN.
Москва 15:30. Новости. Следственный комитет возбудит о нападении на журналиста радиостанции «Эхо Москвы».
Et ça, Alexandra, c'était cet après-midi sur la radio russe «Écho de Moscou». On en parlait tout à l'heure avec Florence Paracoulos dans le journal. L'annonce de l'agression d'une de ses journalistes.
Ben oui, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais difficile de ne pas vous en dire un mot. Tatiana Fengelgauer, présentatrice d'une émission très populaire en matinale sur l'un des rares médias indépendants du pays, «Écho de Moscou», en effet été poignardée ce matin par un homme qui s'est introduit dans la rédaction. D'après le rédacteur en chef de la radio, les jours de cette journaliste connue pour ses soutiens à l'opposition ne sont pas en danger.
Lui est en prison en Algérie et pourrait bien y mourir.
Le journaliste Saïd Chitour est diabétique. 4 mois qu'il est en détention provisoire à Alger, accusé d'espionnage pour avoir transmis des documents confidentiels à des diplomates étrangers. Selon Reporters sans frontières, non seulement Saïd Chitour est innocent, mais son état de santé est aujourd'hui très préoccupant. Ce journaliste fixeur qui a travaillé pour la BBC, pour pour le Washington Post, aurait déjà perdu plus de 20 kilos. L'ONG a lancé une pétition en ligne pour réclamer sa libération immédiate.
Et puis Alexandra, en Grande-Bretagne, une émission de télé diffusée ce soir sur Channel 4 fait scandale.
At a time when our nation is more divided than ever.
He wouldn't even think this was in England at the minute.
One woman will walk in someone else's shoes.
Disguised. Au moment où la nation est plus divisée que jamais, dit la bande-annonce, Channel 4 a en effet proposé à une assistante médicale de Manchester, où une attaque terroriste a eu lieu, souvenez-vous, en mai dernier, de passer une semaine dans la peau d'une musulmane pakistanaise. My Week as a Muslim, c'est le nom de ce documentaire d'immersion. Et ce qui fait scandale, c'est que pour passer pour une musulmane, Cathy Freeman, l'assistante médicale, a été grimée de blanche. Sa peau est devenue orange-marron. On lui a aussi posé un faux nez en patate totalement ridicule. D'où ce déferlement de commentaires outragés sur les réseaux sociaux. Une catastrophe complète, absolument choquant. Nous ne sommes pas vos costumes d'Halloween. Et je pourrais vous en citer encore beaucoup d'autres comme ça. Le Conseil musulman britannique est lui aussi monté au créneau pour dénoncer une profonde offense. La production de l'émission explique de son côté qu'elle n'avait d'autre but que de pointer l'islamophobie dans le pays et sans doute aussi de faire de l'audience.
Croyez-vous. Merci beaucoup Alexandra Akoun d'Un Jour dans le Monde. 18h56, l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et vous vouliez revenir sur la Catalogne, Anthony, mais surtout revenir sur le passé lointain de la Catalogne.
Oui, et pour deux raisons. La première, et la plus évidente, est que les catalanistes, comme les espagnolistes d'ailleurs, ne cessent de se référer à l'histoire. Et au milieu de ce flot de références historiques, il y a, vous savez, le fameux point Godwin. Pour le monde entier, ce point est atteint lorsqu'à bout d'argument, eh bien, on traite son opposant de nazi. En Espagne, ce point Godwin est atteint avec l'accusation toujours terrible de franquiste. Et croyez-moi, en ce moment, le point Godwin espagnol est atteint quasi systématiquement. Puis la deuxième raison de ce retour vers le passé tient à un anniversaire, c'était le 23 octobre, donc aujourd'hui, il y a exactement 40 ans, le président de la Catalogne en exil, Josep Tarradellas, s'avançait sur le balcon de la Generalitat à Barcelone pour déclarer ceci.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
Alors croyez-moi, tous les Espagnols, évidemment tous les Catalans connaissent « Ja soc aquí » qui signifie « Je suis là ». Elle a été prononcée, cette simple phrase, devant des dizaines de milliers de Barcelonais. Elle signifiait cette phrase « Le retour à l'autonomie de la Catalogne ». Mais au-delà, pour tous les Espagnols, elle a longtemps signifié le retour de la démocratie tout court, tant il est vrai que la question catalane a toujours été une affaire à la fois locale et nationale en Espagne.
Et ça commence par une humiliation historique, donc, Anthony, pour les Catalans.
Oui, le 11 septembre 1714, il y a trois siècles, Barcelone, défaite militairement, se rend à Philippe V d'Espagne. Et c'est toute la Catalogne qui perd alors l'autonomie dont elle jouissait, et ce depuis des siècles. Depuis, tous les 11 septembre, les Catalans commémorent donc cette humiliation en descendant dans la rue. C'est leur 14 juillet à eux, ce jour s'appelle la Diada. Mais qui est donc ce Philippe V qui les a privés de leur autonomie? Eh bien, c'est le descendant direct du roi actuel, qui d'ailleurs lui a succédé dans l'ordre des Philippes d'Espagne, puisqu'il règne sous le nom de Philippe VI. Pour les catalanistes, donc, la boucle de trois siècles est bouclée. Ce roi Bourbon, descendant de Philippe V, qui en plus porte son nom et lui succède en chiffres, est quasiment un usurpateur, le visage de leur humiliation historique. Même pas besoin d'être républicain pour le voir ainsi. Même dans les détails, vous voyez, l'histoire ne passe pas.
Mais alors, et pour les espagnolistes?
Eh bien, pour les plus à droite, monarchistes et bourboniens, la Catalogne, c'est le lieu d'où viennent tous les ennuis de l'Espagne contemporaine. C'est depuis ce fameux balcon dont je vous parlais tout à l'heure de Barcelone, qu'a été proclamé la seconde république espagnole, c'était en 1931. C'est toujours depuis le même balcon qu'a été proclamé une première fois en 1934 l'indépendance de la Catalogne. Deux ans donc avant le début de la guerre civile en 1936. Donc à droite, la Catalogne qui se cabre, eh bien c'est l'Espagne qui se brise. Et puis, pardon, mais à gauche aussi, beaucoup ont un mauvais souvenir de cette Catalogne qui, selon eux, a rompu l'unité républicaine au profit de ses passions indépendantistes. En clair, le franquiste a remporté la partie en partie à cause de l'irrédentisme catalan. Cela se retrouve aujourd'hui au sein du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, mais aussi chez les communistes et même chez les insoumis de Podemos qui ont toujours pensé qu'au fond, les problèmes de l'Espagne étaient avant tout économiques et pas nationalistes. Et au milieu de toutes ces humiliations mal digérées, de ces accusations de franquisme, pas plus tard que le week-end dernier par Carles Puigdemont, ou de trahison côté madrilène, eh bien on rejoue encore et encore la même tragédie, et ce depuis trois siècles.
Anthony Bélanger, cette fois c'est fini. Allez, le 18-20 avec le téléphone sonne dans un instant, merci de nous écouter.